I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants.
Bonsoir et bienvenue sur Calade en direct depuis la librairie des Marais pour cette émission Vagabondage à la fois spéciale et maintenant aussi à la fois traditionnelle puisqu'il s'agit de notre émission pour commencer à s'intéresser au choix de cadeaux pour Noël. Je suis bien sûr avec le maître des lieux, Bertrand Lamure, dans la librairie où j'ai eu la chance de rester quelques dizaines de minutes seul à flâner. C'était presque comme un rêve d'enfant. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir à toi. Bonsoir à tous.
Alors Bertrand, nous sommes déjà au mois de décembre et il est plus que temps, en ce 3 décembre, de commencer à s'intéresser aux livres que l'on pourrait mettre sous le sapin dans 21 jours, tout dépend à quel moment on offre les cadeaux.
Tout à fait, écoute, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée et il est vrai que le livre, dans toute sa diversité, reste quand même le cadeau préféré des Français. Donc je trouve que le mois de décembre est un mois toujours très beau, c'est beaucoup beaucoup d'effervescence, mais c'est vraiment très agréable de conseiller, de proposer, de faire des paquets cadeaux. Justement pour le 24, le 25 ou après tout n'importe quel moment.
Finalement, ça fait de toi un peu un genre de lutin du Père Noël.
C'est ça, voilà. Non, c'est très sympa.
Alors Bertrand, on commence ici au début de la librairie avec les premiers livres que l'on voit quand on franchit, quand on pousse la porte et qu'on franchit les premiers mètres de la librairie, ce sont les livres de la rentrée littéraire.
Voilà, c'est vrai que la librairie est faite de telle manière qu'il y a une grande table qui accueille les personnes qui viennent nous voir à la librairie. Et c'est bien évidemment les romans, parce qu'une librairie généraliste laisse une part importante à la littérature française, du monde. Et nous, on a une tradition en France très ancrée, qui est la rentrée littéraire d'août-septembre, et elle se poursuit en particulier avec les prix qui ont lieu au mois de novembre, et bien évidemment, pour Noël, ça reste, j'espère, un plaisir d'offrir un roman que j'ai aimé, que je conseille, soit qui a été primé, soit tout simplement qu'on a entendu, qu'on a lu, qu'on aimerait offrir. Voilà, donc c'est vrai que la littérature, je trouve que à sa place, sous le sapin de Noël.
Et parfois même une auteure ou un auteur qu'on a pu rencontrer ici à la librairie.
Tout à fait, oui. Alors pour citer une actualité récente, j'ai eu la grande joie, ça c'est vraiment des joies de libraire, de passer deux belles journées avec deux auteurs de chez Flammarion. Donc la semaine dernière, toute la journée, puisqu'on a fait des rencontres lycéens, rencontres ici, j'ai animé une rencontre à la médiathèque avec Brigitte Giraud. Brigitte Giraud qui est une auteure confirmée, magnifique. Et là, c'était pour un livre très fort, Jour de courage. Voilà, c'était un beau moment. Et le lendemain, j'accueillais un premier auteur, toujours chez Flammarion, qui est Victor Gestin, pour un livre très dense, très bien écrit. Victor a 25 ans et c'est vraiment déjà quelqu'un qui en a plein la tête. Et c'était très chouette de passer une soirée avec lui tout simplement pour le plaisir de discuter avec un jeune auteur.
Comme quoi on peut commencer. Souvent on dit que les premiers romans, dans la plupart des cas, c'est après la quarantaine qu'ils sont publiés, mais pas pour ce jeune homme.
Ah non, Victor, c'est vrai que c'est quelqu'un de très sympathique. On sent qu'il en a dans la caboche, hein, comme on dit. Il fait aussi du cinéma en tant que scénariste. Et voilà, il est assez impressionnant de maturité, tout en étant dans sa jeunesse. Et ouais, on se dit que sortir un livre, premier roman chez Flammarion à 25 ans, ça a de la gueule.
Et ce premier roman s'appelle « La chaleur ». Alors, à part ces deux romans, « Jour de courage » par Brigitte Giraud et « La chaleur » par Victor Gestin, est-ce qu'il y a d'autres coups de cœur pour toi, Bertrand, qui valent vraiment le coup et qui ont vraiment leur place sous le sapin?
Alors, c'est une question piège parce qu'il y a des dizaines et des dizaines, donc on n'a pas le temps pour cela. Il y en a, je vais juste les citer parce que du coup, ça serait trop long. Moi, j'avoue que le Goncourt 2019 de Jean-Paul Dubois est un Goncourt très sympa. Drôle, humain, fraternel, très content. Moi, j'avais un autre livre qui était aussi un premier roman, qui est Zébu Boy d'Aurélie Champagne. C'est un premier roman qui se passe à Madagascar en 47, très poétique, très beau. Voilà, ça, c'est un coup de cœur. J'ai aussi eu, depuis le mois d'août, un gros coup de cœur pour Karine Thuil, pour Les choses humaines, chez Gallimard, et très, très content pour elle, puisqu'elle est le Goncourt des lycéens et l'interallié, et c'est un texte qu'on ne lâche pas. Voilà. Et puis, après, vous en avez beaucoup d'autres, que ça soit le Ghetto intérieur d'Amigo Reyna, qui est très beau, très fort, que ça soit le Cécile Coulon, que ça soit Jeanne Benhamer, très très beau texte, que ça soit Valentine Gobi. Beaucoup de femmes, quand même, dans tout ça. Marin Fouquet, aussi, pour un premier texte. Donc voilà, tout ça, j'en oublie, bien évidemment, dans mes coups de cœur. Mais voilà, ils sont là depuis le mois d'août, on les suit depuis le mois d'août, on va les suivre encore en 2020, parce que c'est très agréable de suivre des auteurs et des beaux textes.
Puis alors aussi à la librairie, donc il y a les sorties de la rentrée, hein, les sorties de la rentrée, c'est pas mal, les sorties de la rentrée littéraire, puis il y a les coups de cœur éternels de la librairie, c'est-à-dire que ceux qui restent des coups de cœur et qui sont indétrônables, comme certaines chansons restaient au hit parade pendant des semaines et des semaines.
Ouais. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'on a notre petite table, c'est pas évident pour un libraire, parce que en fait, vous voyez, là, on est au mois de décembre et nous, on prépare déjà la rentrée littéraire de janvier. Donc voilà, il va falloir penser à autre chose, hormis nos vrais coups de cœur. Mais il y a là. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait une table où là, il y a vraiment des textes qui, au cours de ces dernières années, nous ont marqués. Donc moi, j'ai un coup de cœur éternel. Il n'y en aura qu'un. Ça sera Le jour des corneilles de Beauchemin, qui est un Canadien. C'est un texte sublime. Et j'ai rarement lu un texte comme ça. Alors j'en ai beaucoup, beaucoup parlé à tous ceux qui fréquentent la librairie. Mais voilà, ça reste là. Mais après, vous avez Gioconda, qui est un très, très beau texte grec, un texte il y a 40 ans. Une histoire d'amour magnifique. Il y a Laurent Godet avec Salina et tous les autres Laurent Godet. Il y a Sapienza, qui est une auteure italienne qui a disparu déjà depuis quelques décennies. Et entre autres, avec L'art de la joie, c'est une écriture fabuleuse. Voilà, je pourrais continuer. Mais c'est important, je trouve, qu'on ne soit pas totalement toujours dans, entre guillemets, le zapping des livres, mais qu'il y ait des livres qui restent et que nous, en tant que libraires, on porte, peu importe les saisons, peu importe les années.
En plus, cette table est vraiment petite, donc les places sont chères sur cette table des coups de cœur éternels de Bertrand Lamure. Et je dois dire que, alors moi je n'ai pas lu Le jour des corneilles, mais je dois dire que le livre en lui-même, c'est pas un livre, je veux dire, le livre objet en tout cas, l'objet en lui-même n'est pas un livre ordinaire, puisque la couverture a une texture qui n'est pas du carton, tout est embossé dessus et c'est déjà un livre qui est très agréable à tenir en main.
Mmh. Oui, tout à fait. Alors, il a une couverture dans l'année assez classique, mais effectivement, pour Noël, alors là, je pense que c'est le dernier Noël, parce que j'ai réussi à avoir quelques exemplaires avec cette très belle couverture. Et voilà, et je trouve que ce livre le mérite.
On va continuer à cheminer dans la librairie, à s'enfoncer tranquillement le long des tables remplies de livres et des étagères. Alors, pour ne pas créer de confusion, on ne va pas dire des bibliothèques de la librairie, parce que là, ça va.
Non, ça mais va. Après.
En tout cas, des étagères de la librairie. Ouais. Et je vois que Bertrand vient de faire une petite halte en regardant fixement un livre. Alors, Bertrand, qu'est-ce qui vaut la peine qu'on s'arrête ici?
Alors, il faut. Pareil, ça pourrait être dans les coups de cœur éternels, mais c'est bien évidemment, parce qu'il y a une actualité, il y a une grande librairie en ce mois de décembre sur lui, c'est bien sûr Christian Bobin. Donc Christian Bobin, c'est ni un poète, ni un romancier. C'est un homme qui vagabonde dans les mots, c'est un homme qui est cher. Et donc Christian Bobin est très très admiratif de Soulages. Il avait écrit il y a quelques mois La Nuit du Cœur, où il était depuis Conques, et Conques est connu pour les vitraux de Soulages. Et puis, toujours dans l'univers Bobin, il y a un très beau Cahier de Lerne qui est sorti. Alors, les Cahiers de Lerne, moi, je trouve ça, c'est le nec le plus ultra, parce que c'est des cahiers qui sont magnifiques. Il doit en avoir 4 par an. Et ce sont des cahiers qui sont consacrés à un auteur. Il y a à la fois une présence de l'auteur, il y a beaucoup de contributions d'autres auteurs. C'est toujours de très, très beaux hommages. Et là, celui donc, de l'automne, c'était sur Christian Bobin. Et c'est absolument magnifique. Magnifique. Donc, Bobin, maintenant et pour toujours.
Et moi, je m'associe à ce coup de cœur parce que j'ai aussi une tendresse particulière pour Christian Bobin, qui effectivement ne fait ni de la poésie, ni du roman, ni de la littérature, mais simplement qui couche son humanité comme ça vient et comme ça. Et c'est toujours magnifique. Mmh. Alors, on va continuer notre chemin dans la librairie pour voir les autres livres comme ça qu'on pourrait vous proposer à mettre, de mettre sous le sapin sans, en étant sûr de ne pas commettre un appert et de donner le meilleur qu'on puisse trouver ici. Alors, Bertrand.
Alors, après Noël, c'est aussi l'occasion, alors, de la part des éditeurs, donc de la part des libraires, de proposer aussi de beaux livres. Parce que c'est vrai que le beau livre s'offre beaucoup pour Noël. Et chaque année, il y a toujours de belles découvertes. Alors, je voulais commencer quand même par la photo. Moi, je suis très, très attiré toujours par les livres photos. Je trouve qu'il y a toujours une force qui se dégage. Les livres photos, on y vient, on y revient. Alors, évidemment, nous, à Villefranche, on connaît particulièrement M. Depardon, qui est un des grands maîtres, évidemment, de la photo au XXe et au XXIe siècle. Et là, alors, chaque année, il y a souvent des textes photos. Et là, c'est sur Paris. Il a repris toute une série, surtout dans les années 60, sur Depardon Paris, avec voilà, des photos superbes. Mais je voulais quand même surtout attirer l'attention sur un livre que j'ai vraiment adoré. Il a une force historique phénoménale. C'est un livre, donc livre photo bien sûr, d'Henri Cartier-Bresson. Donc Henri Cartier-Bresson, très grand photographe aussi du XXe. Et là sort un livre qui est en deux temps. Le premier temps, on est en Chine en 1948-49, mais en particulier à l'été 49. Et l'été 49, c'est les dernières semaines avant l'arrivée de Mao au pouvoir, avec le changement radical et totalitaire que l'on va connaître. Et là, on est sur des photos qui sont absolument superbes, parce qu'on est dans un monde qui va basculer. On est dans un monde qui est souvent un monde de pauvreté, mais voilà, un monde d'autrefois. Et dans la deuxième partie, Cartier-Bresson, il retourne en 58. 58, c'est le grand bond en avant. C'est la grande politique totalitaire de Mao et entre autres sur l'économie. Et là, on voit une Chine qui a totalement changé, en bien ou en mal, et malheureusement plutôt en mal. Et les photos sont d'une force, d'une humanité. Voilà, c'est comme tous les livres photos, c'est à garder après à vie. Je dirais d'ailleurs comme tous les cadeaux de Noël.
On sent l'ancien prof d'histoire. Hein. Moi, je suis là, j'écoute, je trouve ça passionnant. Et puis alors, ce livre, il est intriguant à côté. Il s'appelle Jour bleu.
Ouais.
Il est une couverture bleu nuit.
Bleu nuit, avec des photos qui sont... je ne sais pas si tout le monde se rappelle l'ambiance Polaroid qu'on avait, etc. Donc c'est un petit peu dans cette idée-là. C'est avant tout une idée de Tahar Ben Jelloun, donc le grand auteur marocain, et qui nous emmène, alors principalement au Maroc, mais pas que, sur les bords de mer, paysages, personnes qui se baladent, couchés de soleil. C'est profondément poétique et vraiment, vraiment, ça invite au voyage.
C'est vrai que Noël, c'est la période où on peut offrir les beaux livres et puis comme ça, Celui qui reçoit un beau livre, il a le temps de le lire tranquillement, de regarder une page le soir et d'y revenir. Ça s'y est un peu dans le sens où on veut aussi.
Tout à fait. C'est vrai que, alors classiquement, on a, quand on voit les magazines de déco sur la table du salon, il y a toujours quelques beaux livres d'art qui traînent. Voilà, donc ça, c'est ambiance elle décoration, on va dire. mais c'est pas faux parce que moi, enfin voilà, à titre personnel, moi je vois, j'ai plein de livres de photos ou d'art, et c'est un vrai plaisir de se replonger dans juste le temps d'une heure comme ça, et on repart et on revoyage. C'est pour ça que c'est éternel les livres d'art et les livres de photos.
Avant de faire une petite pause musicale, Bertrand, est-ce qu'on peut proposer encore un autre livre à mettre sous le sapin ?
Oui. Alors, je voulais proposer un livre qui est d'un grand historien aussi, qui est Michel Pastoureau. Alors, Michel Pastoureau, on le connaît parce qu'il a beaucoup travaillé sur le bestiaire du Moyen-Âge, l'ours, le loup, mais on le connaît surtout depuis quelques années sur l'histoire des couleurs. Il avait fait l'histoire du noir, l'histoire du vert, l'histoire du rouge, et là, il vient de sortir jaune, qui est donc l'histoire de la couleur jaune. Et le jaune est une couleur très particulière. Il le montre bien, Pastoureau, parce que c'était une couleur sur l'Antiquité qui était extrêmement mise en avant. La couleur de la richesse, la couleur du soleil. Nous, dans notre histoire, et entre autres médiévale, on en a fait une couleur douteuse, une couleur, le jaune verdâtre.
C'est la couleur du soufre aussi, hein, le jaune.
Voilà. Et du coup, je trouve qu'il en fait une analyse. Alors, le beau livre est magnifique parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. Et voilà, pareil, ceux qui ont la collection des précédents, il faut impérativement que vous ajoutiez à votre collection jaune parce que c'est une couleur qui n'est pas douteuse. C'est quand même la couleur du soleil, la couleur de l'or, la couleur, effectivement, aussi de la beauté.
Et de la trahison aussi.
Non.
Souvent, on parle des syndicats jaunes pour parler de ceux qui s'allient avec le patronat dans l'histoire syndicale.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais.
Mais... sans parler pour les trahisons domestiques.
Voilà, non. Moi, je garderai que le jaune, c'est une belle couleur.
On va continuer à déambuler ensemble en direct depuis la librairie des Marais. Je vais vous proposer une petite coupure musicale tout en douceur avec M et Toumani Diabaté.
Comme un vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. Comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise. Peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali d'énerveille, le mali Dieu crée à la flamme. Le mali danse dans mon âme. On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mali danse, au son des balles de Bamako.
Carrément, vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui, c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
On y soit qui m'a les bandes. tous, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse au son des balles de Bamako.
M. Toumani Diabaté, nouvelle, toujours avec Bertrand Lamure, à l'intérieur de la librairie. On est tout seul, c'est trop bien, il manque plus qu'un feu de cheminée. Je sais pas si c'est bien indiqué dans une librairie, un feu de cheminée, mais en tout cas, c'est super agréable chaque année de vous retrouver au mois de décembre comme ça pour cette petite déambulation, pour vous donner des idées cadeaux, des idées livres, parce que finalement, offrir un livre, c'est aussi un peu offrir de soi.
Oui, tout à fait. Oui, c'est déjà ouvrir sa porte ici à tous ceux qui ont envie d'offrir un livre. Et puis, effectivement, c'est aussi le charme d'être dans une, ou d'avoir, pour ma part, une librairie indépendante. C'est-à-dire que c'est quand même aussi, quelque part, nous qui décidons de mettre en avant tel ou tel livre, tel ou tel beau livre, etc. Donc voilà, c'est aussi un plaisir, peut-être égoïste, mais je n'ai pas l'impression, mais un plaisir de travailler comme ça.
Puis je me disais aussi que finalement être libraire, c'est encore mieux que d'être psychologue, parce qu'on doit vraiment beaucoup apprendre sur le monde intérieur de ses clients quand on les voit déambuler sur certains rayons, vers certains auteurs, avoir des fixettes sur certains endroits.
Tout à fait, oui, non, c'est sûr, c'est une école de la vie, hein, la librairie, mais c'est extrêmement touchant, passionnant, donc...
On est au fond justement de la librairie, là où il y a le fauteuil très confortable où on peut s'asseoir pour lire, à côté du radiateur, la meilleure place de la librairie pour moi. Et juste au-dessus du fauteuil, il y a là d'autres beaux livres et des catalogues d'exposition.
Ouais, moi j'avoue que, alors bon, j'aime bien l'art, je trouve que c'est très agréable de proposer des livres d'art, et puis de se dire que, ben voilà, on a bien beau être à Villefranche-sur-Saône, et que Villefranche est aussi connectée au reste du monde, est aussi connectée avec la culture nationale, qui est évidemment très parisienne, mais bon voilà, et donc j'aime bien faire de liens avec justement ce qui peut se passer sur les grandes expos, hein, mais d'ailleurs pas forcément toujours grandes expos. Donc évidemment, on aime bien suivre l'actualité du Louvre avec la grande expo Vinci du moment, d'aller du côté de Toulouse-Lautrec, de Bacon, bien évidemment au Centre Pompidou, l'âge d'or de la peinture anglaise qui est au Luxembourg, Giono, une très 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 belle expo au Mucem à Marseille, et on pourrait en citer comme ça beaucoup. Donc, le livre d'art, comme le livre photo, a également toute sa place pour Noël.
On va continuer, parce que on va se rapprocher tranquillement vers le rayon des enfants. Mais avant le rayon des enfants, il y a tout le mur qui est consacré. Alors maintenant, je ne sais plus, à chaque fois, j'ose plus dire la bande dessinée, parce qu'il y a les bandes dessinées traditionnelles, puis il y a aussi tout ce qu'on appelle les romans graphiques. Ouais. C'est ces bandes dessinées de plus en plus épaisses qui donnent envie de plus en plus de se plonger dedans. Et là, il y a quand même un beau choix sur tout ce mur-là qui est au fond de la librairie.
Ah oui, non, mais je trouve que la BD peut nous emmener dans des univers, peut nous toucher. Alors, les livres nous touchent, je parlais de la photo, ça nous touche. Mais d'une autre manière, c'est vrai que le roman graphique ou la BD, bon, au final, c'est assez tenu la différence, mais en tout cas, parlons du roman graphique. Vraiment, il y a quand même des auteurs, des illustrateurs qui sont vraiment de petits génies. Et donc c'est un vrai vrai plaisir aussi d'avoir un rayon qu'on essaye pas forcément trop formaté, parce que vous savez aujourd'hui très souvent il y a des séries, et alors nous on n'a pas beaucoup de séries qui peuvent faire 10, 20, 30, mais au contraire plutôt choisi, plutôt toujours pareil comme pour les livres, comme pour les romans, des coups de cœur qu'on a eu et puis ce qui est bien avec le roman graphique, c'est qu'on peut l'avoir pendant des années. Il n'y a pas quelque chose qui s'épuise, comme parfois dans un roman de rentrée littéraire. Voilà, donc il y a vraiment des vraies petites perles.
Alors, est-ce que peut-être on peut conseiller justement certaines de ces perles, un choix pour l'histoire et un choix pour le graphique ? C'est dur ce que je te demande là, Bertrand.
Oui, oui. Ouais. On va commencer par le graphique. Alors, il y a un illustrateur qui est un vrai grand, qui s'appelle Rochette. Et Rochette, alors il a été un peu du côté de la SF, et puis là, il a sorti coup sur coup deux albums grandioses. L'un, c'est Elle froide, ça se passe dans la montagne, dans les Alpes, sur l'apprentissage d'un jeune homme sur tout ce qui est escalade, et donc c'est entre autres Rochette. Et puis il vient de sortir, il y a déjà quelques mois, Le Loup, où c'est l'histoire d'un berger, Gaspard, d'un lien avec une louve. On se suit, on se regarde, on s'épie, on se respecte. Et Le Loup, sorti il y a quelques semaines, vient sortir en coffret luxe. Donc ça, c'est du vrai roman graphique. Et alors ça, c'est de toute beauté. Vous avez dans votre entourage des gens qui aiment la BD, c'est le rêve absolu. Voilà.
Et même, alors, cette couverture est magnifique. Il y a juste écrit Rochette, Le Loup et un magnifique loup blanc sur un fond bleu nuit. Ouais. C'est vraiment magnifique.
La classe, la grande classe.
Et pour l'histoire, alors, Bertrand, là, vraiment, le roman graphique, la bande dessinée qui nous embarque, qui nous fait voyager ou alors qui nous emmène dans un univers vraiment complet, vraiment...
Alors, c'est de là plutôt du roman graphique. Catherine Meurice est une illustratrice qu'on connaît bien parce que elle est de Charlie Hebdo. Elle avait fait La Légèreté après l'attentat de Charlie, et elle vient de sortir un roman graphique assez surprenant qui s'appelle De la Croix. Et en fait, elle restitue la relation, l'amitié qu'il y a eu entre Alexandre Dumas et Delacroix. Donc, on est 19e siècle. Et c'est passionnant parce que, Dumas, il a ses mots, il a son talent d'écrivain. Delacroix a son génie de peintre, l'un des plus grands peintres du 19e siècle. Et du coup, Catherine Meurice fait revivre cette relation à travers les textes de Dumas et à travers surtout son illustration. Et c'est beau, c'est poétique. De nouveau, encore un très, très beau travail.
Il s'agit d'abord du projet Crocodile, qui est publié chez Casterman, qui était au départ un projet qu'on trouvait sur Internet, sur le site qu'on appelle Tumblr, où on peut publier des petites images. Et l'autre, ce sont les culottés de Pénélope Bajut et de l'histoire, et qui pourtant ont eu un grand rôle à jouer. Et puis, il y a ce livre, le projet Crocodile, qui sort donc le livre « Les crocodiles sont toujours là », où ça parle plus du harcèlement de rue, avec du coup une mise en scène de ces situations dans lesquelles les femmes peuvent se retrouver confrontées à des harceleurs et des harceleuses aussi, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le couple aussi. Et pourquoi le projet Crocodile ? Parce que les harceleurs sont présentés comme des crocodiles. Alors que ce sont des hommes, pour la plupart, où les harceleuses aussi sont présentées comme des crocodiles. Et même ceux qui restent témoins, ceux qui ne bougent pas et qui regardent en trouvant ça normal, ce qui est en train de se passer, sont aussi présentés comme les crocodiles. Et quand on regarde ce livre, on peut le lire aussi avec des adolescents et des adolescentes, et bien ça fait réfléchir aussi sur les rapports qu'on peut avoir entre hommes et femmes. Et ça me renvoie aussi des choses importantes à aborder avec les enfants et avec les adolescents.
Oui, non, tout à fait. Et ce que je trouve intéressant aussi avec le roman graphique, c'est que justement, à la différence des essais, qui peuvent être parfois ardus, pas accessibles à tous, on n'a pas forcément toujours envie d'aller, et bien c'est vrai que le roman graphique pose des mots, M-A-U-X, avec des dessins, des illustrations, et parfois c'est beaucoup plus parlant que 500 pages d'un essai qui parfois peut être un peu dur à digérer.
Oui, parfois... Un petit scénario bien ficelé avec les images qui vont bien ça permet de vraiment être bousculé dans ses représentations et se dire « Ah, mais ça pique un peu des fois, mais c'est... en même temps, il faut que ça pique parfois. » Je vais vous proposer que nous fassions une autre petite pause musicale, encore une belle chanson. Allez, cette fois-ci, on remet encore plus de douceur puisque c'est Louis Armstrong, bien sûr, avec « What a Wonderful World ».
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
En radio, on a la mauvaise habitude de souvent couper les chansons avant la fin, mais il y en a certaines qui méritent d'être écoutées, même le petit silence qui suit la chanson. Et c'est le cas avec cette belle chanson de Louis Armstrong. Vous êtes toujours en direct pour l'émission Vagabondage sur Calade, et surtout depuis la librairie des Marais à Villefranche, avec Bertrand Lamure, le maître des lieux, qui nous accompagne pour cette déambulation dans les rayons de la librairie, afin de vous donner les plus belles idées de cadeaux à mettre sous le sapin pour Noël qui approche à grands pas, puisque le mois de décembre a déjà commencé à égrener ses jours. Et on se retrouve là, vous voyez, je parle un peu plus feutré que tout à l'heure, puisqu'on se retrouve dans cette petite pièce du fond, là, sous la lucarne, avec ses belles lumières, toutes ces décorations. C'est la pièce qui est réservée aux enfants.
C'est la cabane des enfants, moi je le perçois comme ça.
Mais j'avais pas vu, il y a de la nouveauté. Attends, alors avant qu'on attaque, il y a une nouveauté dans cette cabane des enfants. Je tournais le dos, j'avais pas fait attention. Tu as fait un joli coin vraiment lecture pour les enfants.
Tout à fait.
Tout au fond de la cabane.
Voilà, un coin lecture où ils peuvent se poser. Et puis surtout un coin où ils peuvent dessiner sur les murs. Parce qu'évidemment, à la maison, ils n'ont pas le droit. Hein. Et là, du coup, alors les murs sont déjà très très chargés, mais il y a des trucs très très sympas. Il y a des petits dessins qui sont géniaux. Donc en fait, je voulais repeindre. Bah, pour l'instant, je repeins pas.
Bertrand est en train de former les graffeurs de Villefranche pour les 25 années à venir. Et puis, il y a ces fameuses poires, là, ces gros coussins énormes dans lesquels on peut s'enfoncer avec un livre. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, en plein milieu de cette cabane, il y a la table qui est réservée forcément là à la période de Noël.
Yes. Évidemment, ça reste quand même toujours assez magique, Noël, pour les enfants, même pour les grands. Mais c'est vrai que pour les enfants et les illustrateurs jeunesse, les éditeurs jeunesse, je crois que chaque année rivalisent de belles idées, de belles inventions. Face à moi, j'ai quand même le Benjamin Lacombe, donc, qui est pour moi un des illustrateurs, avec Rebecca d'Outremer, voilà, vraiment de vrais génies. Et là, en fait, Benjamin a proposé une page, un conte. Donc, c'est sous forme de pop-up. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur une page, et donc sur un pop-up, on a tout l'univers du conte. Et alors là, c'était vraiment un pari risqué, mais un pari assez extraordinaire que d'avoir effectivement ce pop-up. Et donc sur une page, vous avez Pinocchio, et vous avez tout sur Pinocchio. Vous avez une autre page, et vous allez, voilà, le petit chaperon rouge, et c'est absolument extraordinaire. Parfois, c'est presque magique. Plus pour les adultes que pour les enfants.
Alors, il est presque magique, ce livre, parce que quand on le voit, il a un format de livre normal. Ouais, ouais. Mais quand on l'ouvre, on se demande, mais comment ça tient dedans? Sachant qu'il y a plusieurs pages, en plus.
Ah ouais, ça, c'est la magie du pop-up, où on apprend... On découvre des choses extraordinaires. Et dans le même ordre d'idée, son compère un peu, qui est Rebecca d'Outremer. Alors, l'an dernier, elle nous avait fait rêver avec Les Riches Heures de Jacominus, qui était ce petit lapin... qui avait un petit handicap à la patte. Et là, c'est midi pile. Il y a quelques années, Rebecca d'Outremer avait fait le petit théâtre de Rebecca. Et c'était tout découpé, c'est-à-dire tout à la dentelle. Et là, elle refait pareil avec midi pile, puisque Jacominus, à midi pile, a rendez-vous avec Douce, sa bien-aimée. Et en fait, tout le long du livre, on voit Fleur qui se dépêche, qui fait telle rue, qui tourne, etc. Et Jacominus qui attend à midi pile. Et c'est un vrai bijou. Et alors là, c'est pour les enfants, mais en fait, c'est pour tout le monde.
Puis alors moi, je vois pas bien ici si c'est un livre ou pas, mais je vois Noël à Poudlard. C'est un calendrier de l'Avent pop-up, qui je pense va ravir de nombreux fans d'Harry Potter, parce que je crois que Harry Potter est toujours le héros préféré des pré-ados et des ados.
Ah oui, c'est assez impressionnant. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, quand j'enseignais à de jeunes collégiens qui étaient fous sur Harry Potter, j'ai dit, je vais quand même lire Harry Potter pour voir ce que c'est. Et 20 ans après, c'est toujours, on a toujours des... Ils sont de plus en plus jeunes, par contre. Je trouve que c'est vraiment à 8-9 ans qu'ils se mettent dans Harry Potter. Ça reste impressionnant, la magie d'Harry Potter, quand même. C'est... J'avoue que pour le libraire, ça reste toujours une question de se dire mais qu'est-ce qui les fascine à ce point dans Harry Potter ? Et c'est Harry Potter, et puis c'est tous les dérivés d'Harry Potter. Mais bon, c'est bien qu'il y ait de belles identifications.
Et puis alors ce livre-là, qui me surprend un peu cabane des enfants, c'est Léo du Hurlevent d'Émilie Brontë.
Oui, mais c'est avec une très très belle illustration de Charlotte Gasteau, qui est une illustratrice jeunesse. C'est aussi de se dire que, c'est un texte un peu abrégé quand même, à l'école des loisirs, et c'est de se dire qu'on peut aussi faire découvrir, plutôt aux 9-10 ans, on va dire, de faire découvrir de beaux textes à leur portée, avec de belles illustrations. Donc, Émilie Brontë, c'est pour tous. Parlant de contes, je voulais quand même évoquer l'un de mes auteurs jeunesse favoris, qui est Timothée de Fombelle. Timothée de Fombelle, c'est quelqu'un qui a fait Toby Lolness, qui a fait Van Gogh, etc. Vraiment un grand auteur jeunesse. Et là, il vient de sortir un conte, mais qui est beau, qui s'appelle « Quelqu'un m'attend derrière la neige ». Où c'est l'histoire d'un homme qui est livreur, très solitaire, sur les routes. C'est l'histoire d'une hirondelle qui passe l'hiver logiquement en Afrique. Et puis là, elle est poussée vers le nord. Elle est poussée vers la neige. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle avance. Et dans la fameuse nuit de Noël, une rencontre inattendue, une rencontre bouleversante. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est un très beau conte de Noël.
Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombelle. C'est, on va dire, le coup de cœur de Bertrand.
Oui, c'est mon coup de cœur de ce début de fête de Noël.
Ma fille me disait, les livres pour enfants, c'est bien, mais dès qu'on est adolescent, il n'y a pas vraiment de romans qui sont super. Il faut la dédire.
Combien? Je ne sais même pas comment elle a eu l'idée, effectivement. Non. Alors après, quand on parle adolescent, il y a les jeunes adolescents et puis ceux qui ont déjà 14 ou 15 ans. Mais non, il y a de très belles choses, il y a des choses très 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 sympas. Alors il y a à la fois les classiques, hein, et puis vous allez avoir par exemple un que j'avais beaucoup aimé, qui s'est appelé la tribu des Hippolys, autour d'un petit garçon qui s'appelle Guilhem, et Guilhem il déteste lire. Et le pire du pire du pire, c'est que le mercredi matin, il faut qu'il aille à la bibliothèque avec toute la classe pour choisir un livre. Et là, la bibliothécaire, qui est un peu une peau de vache, le guette en disant il n'a pas intérêt à prendre une BD, lui, parce que c'est un livre. Et du coup, il est toujours... Et un jour, il trouve derrière une étagère cachée un vieux livre et il dit « Tiens, je vais le prendre ». Alors évidemment, la bibliothécaire, elle n'est pas contente parce qu'il n'était pas recensé. Donc, elle râle encore. Et quand il rentre à la maison, qu'il ouvre ce livre, sur la première page, il peut lire « Cher Guilhem, ce livre est à toi ». Et du coup, ça va l'emmener dans une belle aventure et il va du coup adorer lire ce livre.
Ah oui, c'est... Donc comme ça, les libraires disent que les bibliothécaires sont des peaux de vache.
Mais pas du tout. Elles sont très rares. Après, ce qui est aussi très beau d'offrir pour Noël, voilà, c'est tous ces livres, tous ces très très beaux livres illustrés. C'est aussi l'idée de repartir dans des contes classiques comme Baba Yaga, etc. Et c'est aussi de partir sur les contes musicaux. Aujourd'hui, il y a toute une palette de contes musicaux que l'on peut offrir. Donc, on aurait classiquement Pierre et le Loup. On a une actrice qui paraît un peu désuète aujourd'hui, mais qui s'appelle Marlène Jobert. Mmh. Et en fait, quand on l'écoute, c'est super sympa. Il y a Marianne James, qui se fait appeler Tata Jambon, et qui raconte des histoires. Elle avait commencé par Tous au lit, et maintenant c'est Tous heureux. Et voilà, ça c'est vraiment de la bonne humeur.
Bertrand, mille merci pour cette déambulation ensemble dans ta belle librairie avec tous ces choix de cadeaux à mettre sous le sapin pour Noël qui approche. C'est vraiment un grand plaisir chaque année de déambuler ensemble parce que d'abord chaque année ce sont des propositions différentes, des univers différents, voilà, c'est vraiment un plaisir. On va souhaiter à nos auditeurs de trouver de beaux cadeaux et des cadeaux qui ont du sens, des cadeaux qui restent et des cadeaux qui vont faire avancer les gens, qui vont faire avancer les enfants, parce que c'est ça qui est important aussi.
Mmh. Tout à fait, c'est à la fois un très joyeux Noël, de très belles fêtes à tous, et effectivement, le livre, le roman graphique, la jeunesse restent des cadeaux éternels.
Nous vous souhaitons une très belle soirée d'abord et puis aussi un très beau Noël. Restez à l'écoute des programmes de Calade et nous on se quitte en douceur avec Nina Simone. A ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eye. As he spoke right out, he talked of life, talked of life. He laughed and slapped his leg a step. His name, Bojangles.
when he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. Stood up and shook clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears. Dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieves. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.